Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Dans Lectures en liberté, je vais commencer par vous lire ce soir un texte de Jacques Josse, L'autre ce soir, qui nous parle encore de Kerouac. La nuit tombe. Les voitures glissent sur le bitume. Leur chant monotone et régulier monte jusqu'à moi. Je loge au 5e étage dans un immeuble situé dans les quartiers sud de la ville. D'ici, je vois le centre commercial Italie, les projecteurs du stade, le chiffre 18 qui se détache, brillant en rouge fluo en haut de la tour des pompiers, face au centre culturel Le Triangle, et l'enseigne aux deux chevrons des usines Citroën, légèrement excentrée sur la gauche, en direction de la route de l'Orient. Tout cela s'anime dès la tombée du jour. Il y a alors une espèce de brume rose qui stagne à 20 mètres du sol. Le bleu du ciel ne vire pas encore au noir. La pénombre balance tout de même ses premières cartes, hésitant entre l'illusion, l'émotion et l'absence. Des soirs comme celui-ci, pris dans le jaune pâle, le faux soleil, de ma tanière, je me verse à boire, j'ouvre un livre et je voyage seul à seul, avec Thomas Bernard, Stieg Dagerman, Serge Essénine ou un autre. L'autre, ce soir, s'appelle Jack Kerouac. Il dévale les collines alentour, emprunte la rocade et déboule à proximité, sortie bretelle route de Nantes, prêt à vivre une mort buissonnière durant 2-3 pages, guère plus. Du doigt, je pointe la rue. Risque un regard au dehors. Rien à voir, bien sûr, avec les néons rouges de Times Square. On est loin du Rialto, loin du Livingston Hall. Et plus loin encore des remous de la rivière Harlem. Je suis à Rennes, Bretagne, dans un appart qui surplombe un bar, un abribus, une boucherie, halal, un restaurant cambodgien, en train de buvoter un cognac ambré, identique à celui que sirota jadis Kerouac, bercé par les cris répétés des goélands de l'Iroise chez son soi-disant cousin Ulysse Lebris. 21h. Près d'ici, quelqu'un titube sous les réverbères. Il avance, disparaît, évite un feu de poubelle, contourne une plaque d'égout qui fume, il se perd, vit et bouge sans cesse. Reste insaisissable dans l'obscurité qu'il réussit néanmoins à éblouir de sa présence. Je vais à sa rencontre. Je lui tends la main, longe et ouvre simplement ses livres. Pic, Tristessa, Cody et Docteur Sachs s'arrange alors pour border ma solitude. De plus en plus loin d'ici, loin de Rennes, où il acheta à la sauvette un soir de juin une flasque d'alcool fort sur le quai de la gare avant de poursuivre son périple vers Brest, loin de cette ville cossue qui s'invente des airs de capitale, laissant à l'occasion, dans un frémissement de ferraille polie et d'électronique haut de gamme, une ligne de métro s'immiscer sous ses jupes friables, Jack Kerouac dort peinard dans sa tombe. Il pointe en long séjour, locataire depuis octobre 1969 au cimetière de Lowell, Massachusetts. Il pionce enroulé dans une veste pied de poule dernier cri. Il a toujours sa cravate rouge, un visage très calme. Bodhisattva, sans le vouloir, il parle dans ses rêves et retrouve parfois Fédor Dostoïevski au quatrième sous-sol. D'ici, on a envie de lui chuchoter des trucs très simples. Lui dire qu'à San Francisco, la Jack Kerouac Street relie désormais l'angle de City Light Books, la librairie de Laurence Ferlinghetti, au Vesuvio Café, où il lui arriva de stationner durant des heures et des heures avant de s'en aller chaloupant, rétamé, buste en avant sur les trottoirs, pris d'un étrange mal de terre. Le dernier bus s'arrête au bas de l'immeuble. Sortie de la pénombre, une ambulance se rapproche, gyrophare en alerte, elle se dirige vers l'Hôtel Dieu. Autour d'elle, la ville minaude. Le vent d'ouest se lève, apporte jusqu'ici un bruit de fond continu créé par le chuintement régulier des pneus sur la rocade et par l'inlassable ronronnement de mécaniques bien rodées, faisant route vers nulle part. Les livres, les notes, le cognac, les tours, les lumières, la ronde des livreurs de pizza et le tressautement des 38 tonnes sur la rocade sont quelques-unes des autres pièces du puzzle qui se démantibulent en moi cette nuit. La nuit s'étire. Cher Jacques, à cette heure, c'est sûr, tu feras glisser ton ombre à des milliers de bornes. Marchant peut-être le long d'une voie ferrée qui traverse une zone désertique pour relier San Miguel de Allende à Mexico City. Ou bien courant comme un fou un sac de marin sur l'épaule, voulant attraper au vol l'express de la Southern Pacific, ou alors en villégiature à San Luis Obispo, en train de pétrir les seins bruns d'une petite Carmelita qui bondiront comme au plus beau jour dessous le pull pour venir se réfugier dans la paume de ses mains. Quoi qu'il en soit, il circulera sous d'autres latitudes, loin des terres, loin des côtes de Bretagne, où de nombreux attelages littéraires brinquebalent encore lourdement dans les ornières. Le halo bleuté d'un poste de télé éclaire ce qui doit être le salon de l'appartement d'en face. Quelques bruits s'invitent en intérieur. Cela va du brusque dégorgement d'une chasse d'eau à l'étage à la vibration qui accompagne les allées et venues de l'ascenseur. Je vois les phares blancs des dernières voitures s'engouffrer sous l'immeuble pour réapparaître 20 mètres plus loin, poursuivant leur périple vers la gare en frôlant les hauts murs. Le mieux est de te laisser dormir tranquille à Lowell. Ou Dylan, tu le sais sans doute, coiffé d'un chapeau pointu, est venu te rendre visite il y a quelques années. D'autres le suivent régulièrement. De là où tu es, j'imagine que tu dois non seulement les entendre, mais également aspirer quelques volutes du tabac mélangé qu'ils aiment griller en improvisant d'étranges poèmes à ton adresse. J'arrête ici cette dérive immobile. N'oublie pas que les rendez-vous de Noël tiennent toujours. Si l'envie de retraverser l'Atlantique te tente, amène-toi avec le manuscrit terminé de The Spotlight Print, le nouveau roman que tu avais commencé 2 jours avant ta mort. En attendant, relis donc Corbière, découvre enfin Ségalène, Elewett, Guilevic. Et s'il te reste un creux dans ton emploi du temps de voltigeur au long cours, va faire une balade au cimetière de Rakisdo, dans la banlieue de Prague. Là-bas repose l'écrivain Bohumil Hrabal, un immense palabreur, qui, à 75 ans bien sonné, a vécu et écrit, pour toi, une Greyhound story, en buvant du vin rouge de Californie devant les chutes du Potomac.
Cut it out quick, but when they will, I can only guess. help it if I'm lucky. People see me all the time, and they just can't remember how to wave. Their minds are filled with big ideas, images, and distorted facts. Even you, yesterday, you had to ask me where it was at. I couldn't believe after all these years, you didn't know me any better than that. Chestnut mare shoot through my head, and I'm making me see stars. You hurt the words that I love best and cover up the truth with lies. One day you'll be in the ditch, flies buzzing around your eyes, blood on your saddle. Yeah, you win.
Time you move your teeth. You're
door. I've been wishing I've been somebody else instead. Down the highway, down the tracks, down the road to ecstasy. I followed you beneath the stars, hounded by your memory and all your raging glory. I've been double crossed now for the very last time, and now I'm finally free. I kiss goodbye the howling beast on the borderline which separated you from me. You'll never know the hurt I suffered, nor the pain I rise above. And I'll never know the same about you, your holiness or your kind of love. And it makes me feel so sorry.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Après cette pause musicale, donc Bob Dylan, évidemment, je vous propose de découvrir le début du célèbre roman de Jacques Kerouac, Sur la route. J'ai connu Dean peu de temps après qu'on ait rompu ma femme et moi. Et j'étais à peine remis d'une grave maladie dont je n'ai rien à dire sinon qu'elle n'a pas été étrangère à cette lamentable et déprimante rupture, à mon impression que tout était foutu. Avec l'arrivée de Dean Moriarty commença le chapitre de ma vie qu'on pourrait baptiser « Ma vie sur la route ». Auparavant, j'avais souvent rêvé d'aller dans l'Ouest pour voir le pays, formant toujours de vagues projets que je n'exécutais jamais. Pour la route, Dean est le type parfait, car il y est né sur la route, dans une bagnole, alors que ses parents traversaient Salt Lake City en 1926 pour gagner Los Angeles. Les premiers échos que j'ai eus de lui me vinrent de Chad King, qui me montra des lettres que Dean avait écrites dans une maison de correction du Nouveau-Mexique. Je fus prodigieusement intéressé par ces lettres, dans lesquelles, avec tant de naïveté et de gentillesse, il demandait à Chad de tout lui apprendre sur Nietzsche et les autres choses merveilleuses que Chad connaissait. À l'occasion, Carlo et moi nous parlions de ces lettres. Pourrions-nous jamais rencontrer l'étrange Dean Moriarty? Tout cela remonte bien loin. À l'époque où Dean n'était pas encore le type qu'il est devenu, où il était un gosse en cage, tout enveloppé de mystères. Puis la rumeur courut que Dean était sorti de sa maison de correction et qu'il venait à New York pour la première fois. On disait aussi qu'il venait de se marier avec une fille nommée Marilou. Un jour où je traînais sur le campus, Chad et Tim Gray me dire que Dean s'était installé dans un meublé minable de l'East Harlem, le quartier espagnol d'Harlem. Dean était arrivé la nuit précédente, venant pour la première fois à New York avec sa belle petite poule délurée, sa Marilou. Ils descendirent de l'autocar Greyhound à la 50e rue. Et, se baladant dans le quartier à la recherche d'un endroit où manger, ils tombèrent sur la cafétéria d'Hector, qui, depuis lors, est toujours resté un haut lieu de New York pour Dean. Ils se payèrent de belles pâtisseries glacées dans le sucre et des choux à la crème. Tout ce temps, Dean tenait à Marie-Lou des discours de ce genre. « Maintenant, chérie, nous voici à New York. Et bien que je ne t'ai jamais vraiment dit tout ce qui me venait à l'esprit quand nous avons traversé le Missouri, et en particulier quand nous sommes passés près du pénitencier de Boonville, qui me rappelait mes petites affaires de prison, il nous faut absolument, maintenant, remettre à plus tard l'examen de ce que nous n'avons pas encore débrouillé de nos sentiments personnels et méditer pour commencer sur des plans précis de vie laborieuse. » Et ainsi de suite, sur le ton qu'il prenait en ces temps héroïques. J'allais jusqu'au meublé minable avec les copains, et Dean vint nous ouvrir en caleçon. Marie-Lou sortait du lit. Dean avait expédié le locataire de l'appartement à la cuisine, sans doute pour faire le café, tandis qu'il s'occupait une fois de plus à résoudre l'éternel problème de l'amour. Pour lui, le sexe était la seule et unique chose qui fût saine et importante dans l'existence. Bien qu'il eût à turbiner comme un damné pour gagner sa vie et tout ce qui s'ensuit. À sa manière d'opiner du bonnet, les yeux baissés, on aurait dit un poulain du ring à l'entraînement qui veut vous persuader qu'il profile de chaque mot et débite par chapelet les oui et les d'accord. À la première impression, Dean me fit l'effet de Gene Autry en jeune, coquet. Les hanches étroites, les yeux bleus et le véritable accent de l'Oklahoma. Un héros à rouflaquette sorti des neiges de l'Ouest. De fait, il avait travaillé dans un ranch chez Ed Wall dans le Colorado avant d'épouser Marie-Lou et de partir vers l'Est. Marie-Lou était une jolie blonde avec de longues boucles de cheveux pareilles à des vagues d'or. Elle était assise sur le bord du lit, les bras ballants entre les jambes, et ses yeux couleur d'horizon brumeux regardaient droit devant elle d'un air égaré parce qu'elle se trouvait dans un de ces meublés new-yorkais ternes et de sinistre réputation dont on lui avait parlé dans l'Ouest. Et elle attendait, ressemblant ainsi, longiforme et émaciée, à quelques femmes surréalistes de Modigliani dans une vraie pièce. Pourtant, mis à part qu'elle était une mignonne petite fille, elle était totalement bouchée et capable des plus terribles vacheries. Cette nuit-là, nous la passâmes tous à boire de la bière, à blaguer, à discuter jusqu'à l'aube, et au matin, tandis que nous étions assis pêle-mêle, fumant en silence, les mégots des cendriers sous la pâle lueur d'un jour triste, Dean se leva nerveusement, arpenta la pièce en méditant, et décréta que la chose à faire, c'était pour Marie-Lou de préparer le petit déjeuner et de balayer le plancher. En d'autres termes, nous devons nous accrocher au terrain, chérie, comme je te le dis. Autrement, il y aura des fluctuations, nous serons dépourvus d'une intelligence réelle de la situation et nos projets ne se concrétiseront pas. Là-dessus, je m'en allais. La semaine suivante, il confia à Chad King qu'il devait absolument apprendre à écrire. Chad lui dit que j'étais écrivain et qu'il fallait aller me demander conseil. Entre-temps, Dean avait trouvé du travail dans un parc à auto, s'était bagarré avec Marie-Lou dans leur logement d'Hoboken. Dieu sait ce qu'ils étaient allés foutre là-bas. Et sa fureur à elle avait été telle, elle éprouvait un besoin si véhément de se venger qu'elle avait porté plainte à la police sous je ne sais quel prétexte mensonger, forgé dans l'hystérie et la démence. Et Dean avait dû filer d'Hoboken. De la sorte, il n'avait plus d'endroit où se loger. Il alla directement à Paterson, dans le New Jersey, où j'habitais avec ma tante. Et une nuit, comme j'étais en train de travailler, on frappe un coup à la porte et voilà mon Dean qui fait des courbettes et se tortille obséquieusement dans l'ombre du vestibule et qui me dit « Salut, tu te souviens de moi ? Dean Moriarty, je suis venu te demander de m'apprendre à écrire. » Voilà, c'est donc terminé pour ce soir. Et je vous retrouve demain pour la suite du fameux roman de Jack Kerouac, Sur la route. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon. Vous pouvez retrouver cette lecture en podcast sur bretagne5.fr. Bonne soirée.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.